Ça continue les histoires de famille. On n'en sort pas de la famille de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, c'est le beau-père. Yitro, il a entendu quelque chose. Et il décide de venir chez Moshe Rabbeinu, chez Moshe. Donc la première question que Chazal pose, Rashi ramène, c'est Vaishma, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait bouger? Qu'est-ce qu'il a entendu de si extraordinaire qu'il en vienne à partir de chez lui et aller chez Moshe. Bon, alors, on connaît les réponses, on verra après. Ce qui nous intéresse, c'est que quand Yitro vient, il vient avec Tzipora et avec les enfants de Moshe, qui sont présentés d'ailleurs comme les enfants de Tzipora ici, Shne Baneha, Tzipora avec ses enfants à elle. C'est vrai que Tzipora était, vous vous souvenez, Tzipora était en Égypte. Elle est allée avec Moshe Rabbeinu jusqu'en Égypte. C'est Aaron qui l'a renvoyée. Enfin, c'est Moshe qui l'a renvoyée, mais Aaron a dit à Moshe, mais ça va pas dans ta tête. Nous, on se désole d'avoir des enfants et des femmes et des enfants dans cet enfer de l'esclavage égyptien, et toi, tu amènes une femme et des enfants. Donc, mon cher Rabbeinu a renvoyé Tzipora, il lui a pas dit retourne chez ta mère, mais retourne chez ton père. Allez les retourner. Dans Chazal, c'est marqué que, à ce moment-là, quand mon cher Rabbeinu lui a dit retourne, si elle l'avait voulu, elle aurait été, par cette seule parole et ce geste-là, elle aurait été divorcée. C'était là-bas, elle était dans son camp. Après le Midrash, Moshe Rabbeinu lui a dit, si tu veux, moi je peux pas m'occuper de toi. Si tu veux, tu peux te remarier, marier avec quelqu'un d'autre. C'est si, c'est ça que ça veut dire, oui. Chazal dit que c'est ça que ça veut dire. Il lui a dit, il l'a renvoyé, mais dans le détail, les mots, on ne les connaît pas. Mais renvoyé, c'est ça que ça voulait dire à ce moment-là. On est avant Matan Torah, on n'a pas besoin de guette. Elle a décidé de continuer de se considérer comme l'épouse de Moshe Rabbeinu. Et quand elle est repartie avec ses enfants aussi. Et là maintenant, elle vient avec Yitro. Alors, ce qu'on va garder surtout, on en a déjà parlé d'autres fois, c'est quand même cette situation, c'est que tout à fait étrange, c'est qu'on ne sait pas exactement quand Yitro est venu. Rachid est-ce que c'est Kriyat Yamsouf, Milchemet Amalek? Et s'il a entendu, c'est Kriyat Yamsouf plus Milchemet Amalek, ça veut dire que donc, que Tzipora et ses enfants n'étaient pas là à la sortie d'Égypte. Et bon, ça c'est déjà, ils n'ont pas passé la mer non plus. N'ont pas assisté à la guerre contre Amalek. Veut dire que la femme et les enfants de Moshe sont les seuls Juifs, si on peut parler comme ça, les seuls Hébreux qui n'ont pas vécu ça. Le reste du peuple ont vécu ces événements extraordinaires. Eux, non. Il y a des chitotes qui disent que Yitro est arrivé après Matan Torah aussi. S'il est arrivé après Matan Torah, alors Tzipora et les enfants sont aussi arrivés après Matan Torah. Comme vous savez, avant Matan Torah, il y a eu un guiour. Il y a eu une conversion de tout le peuple. Et donc, eux n'étaient pas dans cette conversion. Donc, a priori, si elle n'était pas dans cette conversion-là, alors Tsipora et les enfants de Moshe Rabbeinu sont les premiers convertis à titre personnel, en dehors de la conversion collective. C'est assez énorme. Je veux dire, on pense, c'est le sacrifice que ça représente pour eux et pour Moshe Rabbeinu. Mais on a déjà parlé ça à d'autres reprises.
Quand est-ce qu'il a eu lieu la conversion collective?
C'est marqué la Mila, ils ont fait avant de sortir de Mitzrayim. Et les Korbanot, c'est marqué qu'il y a eu des Naharim qui ont fait les Korbanot dans la paracha. Et la Tvila, il y a eu Tvila obligatoirement. Certains disent que on n'en parle, c'est pas dit explicitement, mais c'est sûr qu'il y a eu Tvila. Le Rambam, il écrit que la procédure de Guiour qu'on utilise aujourd'hui, c'est exactement la même procédure que celle par laquelle les Bnei Israël sont passés. Mila pour les hommes, Tvila pour tout le monde, et il y avait un Korban. Aujourd'hui, on ne peut pas apporter le Korban, donc les gens, mais c'est pas Me'akev, ça, bien, ça n'empêche pas la conversion. Mais ça veut dire que quand on le pourra, tous les guérims devront apporter un Korban. Pardon? Pas obligatoirement dans la mer, peut-être dans des fleuves, dans l'eau. La Tvila, elle était peut-être, il y avait des sources, ils sont immergés dans les sources. Vous pouvez être, on verra après dans le texte. Alors, Yitro arrive, il arrive chez Moshe, et comme on sait, il a entendu toutes sortes de choses déjà, il a entendu beaucoup de choses. Moshe Rabbeinu sort à sa rencontre, on passe les embrassades, ils sont demandés comment ça allait. Ils sont allés dans la tente de Moshe. Quand on dit qu'ils se sont mutuellement, enfin, sont prosternés comme bon. Et Rachid dit, je sais pas qui, enfin, on commence comme ça. Eni yodea mi ishtachave le mi. Je ne sais pas qui s'est prosterné devant qui. C'est marqué ish le reu mi akaroui ish. Donc, il y en a Ish le Réhu. Ish, c'est Moshe. Ah, Ish Moshe. Donc, c'est Moshe. A priori, c'est Moshe qui s'est incliné prosterné devant son beau-père. Et alors, à ce moment-là, le pasouk dit, va y saper Moshe le chotno, et kol asher asa Hashem le pharaon, le Mitzrayim. Au dot Israël, peut-être que la clara, cher Mitzratam Mon cher Rabbi nous raconte à Yitro, mais Yitro, c'est pour ça qu'il est venu, non? Il a entendu, il a même entendu. Si ce qu'il a fait bouger, c'est au moins Kriyat Yamsouf, donc il a bien entendu aussi le reste. Kriyat Yamsouf, c'était Kriyat Yamsouf, mais Mechemet Amalek. Ça l'a vraiment décidé, mais il avait entendu le reste. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui raconte? Alors, évidemment, le fait que Moshe lui raconte, c'est-à-dire, ce qu'il avait entendu, il a entendu des choses de l'extérieur, si on peut parler comme ça. Que Moshe va lui raconter, c'est comment les choses se sont passées vues de l'intérieur. Ça, il y avait que Moshe qui pouvait le lui raconter. Ça, Yitro ne le connaissait pas. Et on voit que Yitro, ça le touche. Ça le touche vraiment, hein, même physiquement. Vaïkra d'Yitro. À la Tova, Asher Asa, Hashem li Israël, Asher Itzilo miyad Mitzrayim. Vaïchad, c'est un lachon simcha. Mais c'est pas marqué vaïsmach. Chad, c'est pointu. Oui. Alors, bon, ça veut dire Zéoupchuto, dit Rashi. Il s'est réjoui. Réjoui d'entendre tout ce qu'Hachem a fait pour les Bnei Israël quand il les a sauvés d'Égypte. Le Midrash Haggadah, il y a un Midrash, et Rashi ramène ce Midrash parce qu'il faut bien rendre compte du choix étrange d'avoir mis ce mot, ce verbe de Vayichad au lieu de Vayismach. Naseb Sao Chidudim Chidudim. Il a attrapé la chair de poule, il trouve. Et pourquoi? Alibud Mitzrayim. Dans le récit de Moshe Rabbeinu, il y a le sauvetage des Bnei Israël, mais il y a aussi la perte de l'Égypte. Et Yitro, il a. Je ne sais pas s'il trouvait vraiment égyptien, mais Yitro était conseiller de Paro. Il a des réactions d'égyptien. Vous vous souvenez quand Moshe Rabbeinu est arrivé chez Yitro? Et qu'il lui a raconté sa vie, Yitro, il l'a mis en prison. C'est-à-dire, il l'a jeté dans un puits parce que il avait tué un Égyptien. Le fait que c'était pour sauver un Juif, etc., c'était pas une raison valable aux yeux d'Yitro. Il l'a mis dans un trou et Moshe Rabbeinu, il doit la vie à Tzipora, comme on sait. Pendant 10 ans, il était dans cette prison. Et pendant 10 ans, il a été nourri clandestinement par Tzipora. Et bien là encore, il trouvait encore une réaction d'Égyptien ou de... L'ancien Égyptien, bien que il ne soit pas resté en Égypte, il est parti quand quand Bilam a proposé de tuer les premiers-nés, de tuer les petits garçons, lui il a voté avec ses pieds, il est parti. Il est devenu persona non grata en Égypte, il est devenu un grand personnage en Midian, mais il est suffisamment attaché à l'Égypte pour que même maintenant, je veux dire, le Midrash Haggadah, il ne dit pas qu'il s'est pas réjoui. Oui, il s'est réjoui, mais en même temps, on peut avoir deux réactions. Il s'est réjoui de ce qu'Hachem a fait pour Israël, mais en même temps, il a la chair de poule en pensant à ce qui est arrivé à l'Égypte. Et à ce moment-là, Yitro, malgré tout, donc il est quand même s'est réjoui et il fait une bracha. Yitro fait une bracha. Baruch Hashem asher hitzil etchem miyad Mitzrayim umiyad Paro asher hitzil et ha'am mitachat yad Mitzrayim. Et il dit, maintenant je sais que il gadol Hashem mikol ha'elohim. Puisqu'il les a, il a battu les Égyptiens à leur propre jeu, en quelque sorte. Là, il trouve à faire une bracha. Et pour nous, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que la bracha, elle n'est pas venue en premier chez nous. Il a fait une bracha. Il a béni Hachem. Il a fait une bracha. Quand vous faites une bracha, vous bénissez Hachem, vous savez. C'est ça que ça veut dire, faire une bracha. Baruch, ça veut dire amplifier, on a déjà dit 100 fois, n'est-ce pas? Vous amplifiez, vous demandez à Hachem d'amplifier son action dans tel ou tel domaine. C'est ça le sens. Donc ça, c'est un reproche vivant. Et bien Israël, jusqu'alors, personne n'a fait de bracha. Bracha pour Hachem, sur ce qui s'est passé. C'est un défaut. Tant que personne ne le fait, on peut passer ça sous silence, mais quand Yitro vient, il fait la bracha, pour nous, c'est un kitroug. Et désagréable. Donc, la shira, c'est autre chose. C'est pas une bracha. Une bracha, c'est quelque chose de particulier. Yitro a dû comprendre quelque chose que les Bnei Israël n'avaient pas compris, à savoir que pourquoi il faut faire une bracha? Dans la bracha, quand Hachem, quand on ressent une tova d'Hachem, il faut demander encore. Demandez encore. On dit toujours aux enfants, il ne faut pas demander tout le temps encore, mais quand quelque chose vient d'Hachem, il faut demander encore, parce que si tu ne demandes pas encore, c'est que tu n'as pas vraiment compris combien c'est précieux ce qu'on vient de te donner. En quelque sorte, il demande à Kadosh Baruch Hu de continuer d'amplifier, en fait, le sauvetage des Bnei Israël de l'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, mais on n'en a jamais fini, ni avec l'esclavage, ni avec le problème de l'idolâtrie. On avait dit, c'est pour ça que aujourd'hui encore, on fait des brachot tous les matins pour qu'Hachem nous aide à sortir de l'idolâtrie et de l'esclavage.
Les émotions n'ont pas pensé à ça.
Je n'ai pas pensé, je ne sais pas. C'est pas moi qui le dis. C'est Chazal, il faut remarquer que. Oui, c'est. Bon, le problème, c'est que si encore c'était seulement Moshe, ça restera un quiproquo. Le problème, c'est pourquoi les Bnei Israël n'ont pas. Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière, c'est pas non plus une bonne chose que ce soit Moshe Rabbeinu tout le temps qui fasse tout à la place des Bnei Israël. Il s'agit un peu de sortir de l'enfance. Il faut que les Bnei Israël se prennent en main et avancent un peu. Si Moshe Rabbeinu, d'abord, on ne sait rien si, je ne sais pas quand on dit que il y a que Yitro, peut-être qu'on veut dire que les Bnei Israël l'ont pas fait et que Moshe Rabbeinu pour lui-même, il l'a sûrement fait, mais il l'a pas fait au nom des Bnei Israël. Sinon, ce serait écrit. Lui, personnellement, Moshe Rabbeinu, il n'a pas été sauvé directement. Enfin, évidemment. Alors lui, maintenant, il ajoute, il dit, Ata, maintenant, Yadati ki gadol Hashem mikol Elohim. Rashi dit que Quand il dit Atayadati, il dit Makirim Haïti. Makiro, pardon, Makiro Haïti, le Sheavar. Je connaissais Hachem, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu. Je connaissais Hachem. Mais Arshav, Beyoter. Maintenant, je le connais mieux, j'aperçois, parce que Moshe lui a raconté, il a compris des choses beaucoup plus profondes sur Hachem. C'est de ce passouk-là, Nicolas Elohim, qu'on déduit que Yitro, c'est quelqu'un qui avait une recherche, qui a tout essayé dans sa vie, jusqu'à ce qu'il arrive à reconnaître Hachem. Il a essayé toutes les idolâtries, toutes les idéologies, etc., jusqu'à ce qu'il arrive à Kadosh Barouh. Et au fond de lui-même, Mitro, il pensait que c'est comme ça que ça doit se faire. Il faut une recherche, faut que ce soit l'aboutissement d'une recherche. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce fameux deal entre Moshe Rabbeinu et Yitro. Yitro, il a donné sa fille, etc., sous condition que le premier enfant de Moshe Rabbeinu, on n'allait pas l'éduquer dans, on dirait aujourd'hui, nous, dans la Torah. On va le laisser chercher. Yitro, il est sûr que si on cherche sincèrement, on arrive.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un choix qu'il a fait, qu'il a quand même éduqué vers l'idolâtrie, de ça?
Il a.
Il a éduqué vers l'idolâtrie, il n'a pas laissé tomber un enfant.
Et oui, enfin, c'est le problème, on a l'impression que, vous avez raison, que comme si, naturellement, si on ne fait rien, les gens s'ils vont du côté de l'idolâtrie.
Mais là, c'était son entourage, quand même, l'idolâtrie
Alors,
de
il a priorisé, comment on a fait pour le laisser choisir, je ne sais pas, mais en tout cas, on sait que ça s'est mal terminé.
comment on peut faire une démarche alors que la démarche d'Abraham Avinu, c'était
Abraham Avinu aussi l'a cherché, il l'a trouvé.
plutôt de. C'est vrai, mais pas forcément passé par tous les autres.
Il n'a peut-être pas passé par toutes, mais il a été élevé dans une maison d'idolâtre, Abraham Avinu.
Mais il n'a pas expérimenté toutes les formes de la terre.
Non, mais bon, on ne dit pas que. Vous avez raison. Personne ne dit que ça se saurait si nous pensions qu'il faut faire comme Yitro. Ça se saurait. On ne fait pas comme Yitro. Mais c'était un deal, c'était la condition. C'est toujours un peu difficile de comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu l'a accepté une condition pareille. Semble-t-il, il n'avait pas le choix.
Parce que c'est plus important d'avoir la vie, c'est d'enseigner à chaque
C'était la qualité d'Avraham Avinu, mais on a beaucoup rompu avec Avraham Avinu. Vous savez, on a tout oublié de l'enseignement d'Avraham Avinu en Égypte, sauf un peu la tribu de Lévi, pas complètement, mais les autres sont devenus idolâtres. Non, mais le problème, je ne sais pas, je ne connais pas de texte qui explique en détail, au-delà, pourquoi Moshe Rabbeinu a accepté. Il a dû avoir un deal parce que pourquoi il a tout à coup accepté que sa fille épouse, il a donné sa fille en mariage à Moshe. Donc il pensait que c'est quelqu'un qui l'a mis en prison pour penser que c'était un meurtrier, quoi.
Mais ce que je trouve bizarre, c'est que d'abord, c'est deux choses. Il dit à manger en parlant de sa fille, ses enfants, et là, à nouveau, c'est comme s'il le dépouillait Moshe de toute influence sur sa famille. C'est ses enfants, sa fille, et pour prouver cela, eh bien, il choisit l'orientation à donner à son fils. Parce que Moshe aussi, il a cherché. Il était en plein milieu de la vie. On ne le dit pas, mais que sortant du palais de Pharaon, il avait toutes les facilités pour la vie tremper un petit peu quand même.
Un petit peu, il était prince héritier, il était au courant de toute l'idolâtrie égyptienne.
Donc il a fait une recherche autre que
Enfin, lui, c'est un peu faussé, parce que depuis le début, Moshe Rabbeinu savait qu'il était de qui il était le fils. il était dans le palais de Paro, mais il était éduqué par la fille de Paro qui, elle, était convertie.
Elle était convertie au judaïsme ou convertie au
Au judaïsme, judaïsme, à la forme, à ce qui s'appelait aux valeurs des Juifs d'alors. Non, c'est pas du tout la même chose. Il a pas, il a, Moshe Rabbeinu ne s'est pas arraché à une idolâtrie pour aller vers la Torah. Moshe Rabbeinu, il a eu un double cursus, le cursus de ses vrais parents, de sa mère adoptive, qui était d'un côté, et puis il y avait ce qu'il fallait apprendre, le jeu qu'il fallait jouer, parce qu'il était prince héritier d'Égypte.
Alors, il s'est pas arraché à quelque chose, mais
Il a été
il s'est
confronté,
arraché à la
oui.
valeur.
Oui, bon, mais je comprends, ça n'a rien à voir, non? Je ne
Alors,
comprends pas ce que vous
c'est
voulez
pas
dire.
facile, c'est comme je pense qu'il y a une grosse facilité d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est facile, hein, on va pas acheter des joies, des bâtissages, vous lui donnez des choses à manger, vous allez pouvoir faire un truc, c'est bon.
Voilà, c'est pas toujours tellement facile. Il y a des faux dieux, comme on dit, nous, qui demandent qu'on leur sacrifie leurs enfants, les enfants et tout. C'est pas obligatoirement une promenade de santé, hein.
Mais par rapport à
Ça
la
peut
cause,
coûter cher et tout.
bien parce qu'on comprend aussi le sens que ça a, mais on ne peut pas respirer sans avoir conscience du chemin de la journée, pourquoi on le fait et qu'on doit devenir de plus en plus humble dans notre démarche. Donc, je crois qu'on peut marcher quand on a compris ça. Et HM qui est au-dessus de tout. Et l'idolâtrie, ben, c'est facile, parce que moi, il me
Je
semble.
crois pas, Claudine, que ce soit si facile que ça. C'est pas du tout le même genre de problème, je pense. Mais c'est pas obligatoirement si facile que ça.
De la
Je
crise.
pense que c'est même des choses contre nature.
Oui, mais nous avons
Ben, les
été
choses, quand
éduqués.
elles sont contre nature, elles sont par définition difficiles.
Je vais
Alors,
expliquer.
vous êtes porté par la tribu dans laquelle vous êtes, qui vous facilite peut-être le travail. Mais c'est pas facile. Je crois pas que c'est pas pour, je crois pas que c'est une facilité de pratique, si vous voulez. La pratique qui était exigée, c'était les valeurs elles-mêmes que les goyim de l'époque d'Abraham, ou par la suite, ne supportaient pas. Ils n'étaient pas tous. Le monde entier n'était pas Sodome. Ils ont passé par des moments où ils étaient sérieusement pourris, mais c'était pas Sodome. Je ne crois pas que c'est facile. C'est difficile de mesurer l'un pour l'autre, mais je dirais que c'est un penchant. Mais pas par la facilité. C'est un penchant parce que c'est plus facile à comprendre, c'est plus facile de, ça s'exprime plus facilement, etc. C'est une divinité complètement abstraite, c'est très difficile à comprendre, difficile à vivre. Bon, ensuite, Yitro va donner des conseils de gestion du peuple à Moshe Rabbeinu, qui ont été acceptés. Et ces conseils étaient des conseils de gestion. Le problème que ces conseils soulevaient, c'est que le contact du peuple avec Moshe Rabbeinu était quelque chose d'absolument fondamental pour les Bnei Israël. Et avec le système Yitro, on perdait le contact avec Moshe Rabbeinu. C'est vrai que c'est extrêmement difficile pour Moshe Rabbeinu et tout. Que les gens viennent le consulter pour tout et n'importe quoi. Et que, effectivement, on a allégé la charge Parce que les tout petits problèmes, on les a laissés régler par tribunaux inférieurs, quoi, toute une hiérarchie de tribunaux. Et bon, alors, il y avait moins de problèmes qui arrivaient jusque chez Moshe Rabbeinu, plutôt les problèmes plus importants, mais d'un autre côté, on avait perdu le contact avec Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est une perte très importante en réalité pour le clan Israël. Peut-être que ce n'était pas viable. Probablement que ce que Yitro dit, c'est rationnel. Alors finalement, ça a quand même été accepté par Hachem. Si Hachem ne l'avait pas accepté, ça ne serait pas devenu la règle chez les Bnei Israël. Bon. Yitro retourne chez lui. Et on a avancé, on est sorti d'Égypte au mois de Nissan. Maintenant, on est Bachodesh HaShlishi, le troisième mois après la sortie d'Égypte. Et Bnei Israël arrive dans le désert du Sinaï. Et le passouk nous dit, Vayis'u mirefidim vayavou midbar Sinaï. Vayachanu bamidbar, vayichan sham Israël neged ahar. Vayis'u mirefidim. Ils ont voyagé à partir de Refidim. Question immédiate, c'est Lama utzrach lachzor ulfaresh meichan nasav? On le sait. Ça a déjà été dit qu'ils sont arrivés à Refidim. Donc, a priori, quand on nous a dit qu'ils sont arrivés à Refidim et qu'ils en sont partis, on n'a pas besoin qu'ils sont partis, ben ils sont partis de Refidim. Alors, Rashi explique qu'il ne s'agit pas du tout d'une indication géographique. On n'est pas en train de nous décrire le cheminement concret d'un endroit de la gare de Refidim en direction de la gare du Sinaï. C'est pas de ça qu'il s'agit. Rashi dit, Léakish ne s'y attam, mirefidim le biatam la midbar, le midbar Sinaï. On va comparer, c'est-à-dire on va transférer ce qu'on sait de la venue au Sinaï. On va dire que, on va le comparé avec la sortie de Refidim. On va dire que Af nesiatan mi Refidim bitshuva. Il y a un processus de tshuva. C'est ça qu'on vient nous dire quand on nous dit qu'ils sont repartis de Refidim. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de très intéressante, très important. Le Passouk dit, si vous avez un fromage, vous voyez, on est au chapitre Yutet, Passouk Gimel, non, pardon, Passouk Bet, Vayachanu bamidbar, ils ont campé dans le désert, Vayichan sham Israël negedar. Ça veut dire, on a dit qu'ils ont campé dans le désert, et puis après le passouk nous dit, Vayichan sham Israël.
On est passé du pluriel au singulier.
Oui, mais c'est ça qui est fondamental. Parce que quand on dit Vayichan sham Israël, ça veut dire que le peuple qui était jusque-là un agrégat d'individus, si vous voulez. Voilà, on a un peuple maintenant. La première fois qu'on est un peuple. Vayichan sham, on peut parler d'Israël au singulier. On parle du peuple d'Israël. Jusqu'alors, c'est Vayachanu. Ils ont campé. Les individus qui composaient cette masse de gens qui sont des Bnei Israël, qui sont, parce qu'ils sont les descendants de Yaakov Avinu, qui sont sortis de Mitzrayim, maintenant ils sont un peuple. Ce que Rashi dit, mais qu'est-ce que c'est être un peuple pour ça? C'est Ish Echad Belev Echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. Par opposition à Char Kol Chanayot, tous les autres campements, c'était Betarumot, ou Machloket. Partout ailleurs, quand ils ont campé, c'était toujours avec des disputes. Ils arrivent là, tout à coup, il y a un consensus général, ils ont arrêté les Machloket. On a un peuple.
C'est rattaché à la gestion du temps.
Deux.
C'est rattaché à la nouvelle gestion du temps.
Je sais pas. Je vois pas pourquoi. En fait. C'est pas du tout par rapport à ça. C'est, on disait que dans les autres endroits il y avait des disputes, c'est tout. Mais que je crois pas. Donc, en plus, on nous dit justement, ce peuple 1, ce peuple, il campe Neged Ha'ar, face à la montagne. Ha'ar. Ha'ar, ça définit une certaine montagne, bien précise. C'est quoi, ha-ha? Rashi ramène une Mechilta qui dit où c'était, où elle était située. Mais le Rashbam, donc le petit-fils de Rashi, le Rashbam dit, ha-ha, c'est-à-dire Aniskar Lemala, la montagne dont on a parlé plus haut. Quand est-ce qu'on a parlé de montagne? La montagne à laquelle il fait allusion ici, c'est la chose suivante. Vous vous souvenez, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu au tout début du processus de sortie d'Égypte. Il lui a dit, Hachem parle à Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il lui parle? Vous vous souvenez où il lui parle? Où est-ce qu'il lui parle?
Il est déjà sur le Arsenal, c'est au moment du
Il
Sinaï.
est au Sinaï, le buisson ardent, là, le fameux buisson qui brûle et ne se consume pas, c'est au Sinaï. Et Hachem lui dit, tu auras la preuve de ce que je te parle et que ça va se passer, c'est que Ta'avdu et Ta'elokim à la Harazé, cette montagne-là, dans laquelle tu te tiens, vous allez servir Hachem sur cette montagne. Il lui dit avant que les Bnei Israël soient sortis d'Égypte. C'est le cette montagne-là qu'on parle ici en disant on a campé face à cette montagne, la montagne qui avait été indiquée à Moshe Rabbeinu. Alors Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël allaient Avdu et Elohim. Vous allez servir Elohim sur cette montagne. A priori, Ta'avdu, c'est la Avoda. La Avoda, a priori, c'est les Korbanot. Or, il n'y aura pas de Korbanot au Sinaï. Mais au Sinaï, on va accepter de servir Hachem. On va accepter, on va recevoir la Torah, on va accepter la Torah. Cette acceptation de la Torah, elle vaut service d'Hachem. Quand on a accepté de servir Hachem, d'une certaine manière, ben, après, il n'y a qu'à le mettre en œuvre. L'important, c'était le travail intérieur pour accepter de servir Hachem. Être dans une situation où on va accepter. C'est ça que, ici, on apprend que la avoda n'est pas obligatoirement la avoda maasit, c'est-à-dire la avoda concrète, avec avec des animaux, on va faire la shrita, des crêpes qu'on va faire, des melachot, etc. Mais on accepte de faire ça quand Hachem demandera qu'on le fasse. Pour l'instant, les Bnei Israël n'ont pas de Mishkan, ils n'ont pas de Beth Amikdash. Ces structures-là, elles n'existent pas pour l'instant. Et on n'a pas, les Bnei Israël, ils sont pas partis pour faire ça pour l'instant. On va leur demander, c'est d'accepter la Torah, c'est tout. Mais c'est beaucoup, ça suffit pour qu'on puisse dire ta Avdou et ta Elohim. Je ne sais pas vraiment. Enfin, le problème, c'est la avoda, c'est jamais la avoda à l'Elohim. C'est toujours la avoda Hashem. On n'a pas le droit d'apporter un korban à l'Elohim. On ne peut apporter de korban ou on ne peut prier que Hashem. On n'a pas le droit de prier un autre nom divin. Hashem ou à Elohim, bien sûr, mais on doit adresser la tfila, la prière, et les korbanot uniquement à Hachem. Donc, ta'avdou et ta'elokim, je ne sais pas très bien comment il faut expliquer ça. Mais on en parlera peut-être une autre fois. Je veux juste le faire remarquer que c'est un peu étonnant. Moshe Allah et la'elokim, va'ikra elav Hachem minhar. Que Moshe Rabbeinu monte El Elohim, mais Hachem l'appelle, mais c'est Hachem qui l'appelle. Il y a un jeu sur les. Enfin, jeu. Enfin, pour moi, jeu, ce n'est pas un négatif. Hein. Il y a un jeu entre les deux noms, quoi. Le nom divin.
C'est la façon dont Hachem se révèle.
Pardon?
C'est pas la façon dont Hachem se révèle.
Alors, on avait dit que tous les noms divins correspondent à des façons dont Hachem gouverne le monde. Elohim, c'est la Midat Hadin, ça veut dire que quand Hachem gouverne le monde en tant qu'Elohim, avec le nom divin Elohim, toujours Hachem qui gouverne, mais ça veut dire que la Hanaga, la façon de gouverner, est Midat Hadin. Hachem, on dit que c'est Midat HaRachamim.
Le dîme ne peut pas dire que c'est un dîme.
Pardon?
Le dîme ne peut pas dire que le dîme, c'est carré. Je comprends pas.
Le dîn c'est beaucoup plus carré, mais on prie jamais Elohim. La prière, la tfila, c'est Hachem.
C'est pas possible. C'est une manière, ça, on comprend ça, c'est une question de vie, on comprend ça, on peut pas.
Bon, d'accord, mais c'est pas seulement une raison, c'est pas qu'on peut pas. Si Elohim voulait que ce soit comme ça, ben ce serait comme ça. Mais Hachem, c'est comme ça, on peut pas, nous on peut pas aller naviguer entre les différentes façons de gouverner.
Et comme vous pouvez aller vers Aïlokim, ça
C'est
veut
pas moi, hein. C'est le passouk, hein.
dire quoi?
Justement, ça veut dire Hachem, pour Moshe Rabbeinu, c'était encore une dimension de. C'est comme il lui avait dit, Hachem lui a dit, t'as Avdou et t'as Elohim, bah. Donc lui, quelque part, il a une démarche comme si il n'osait pas monter vers Hachem, si on veut parler comme ça. dit Elohim pour l'instant. Ouais. Mais du coup, Hachem lui parle. Rashi dit que Rashi dit qu'il ne parle pas du tout du pourquoi c'est la Elohim. Rashi parle de quand est-ce que Moshe est monté, etc. Mais il ne dit pas, n'explique pas pourquoi, enfin, ou comment c'était, pourquoi Elohim. C'est en fait une. Quand on dit que Moshe est monté, ça veut dire monter, ça veut dire il s'est préparé. Il s'est préparé à quelque chose, mon cher ami. Le Sforno dit sur place, le Sforno dit où Moshe Allah el ha-Elohim Amar chez Israël Samupneyem Eliskia Hanaya Metsorchea. Les Bnei Israël, ils sont arrivés là, ils sont occupés de savoir, ils vont monter la tente, ils vont, comment est-ce qu'on va camper, quoi. Ils sont occupés des modalités pratiques de campement, du campement. Où Moshe Allah veichin atzmo les nevoah. C'est comme ça que le Sforno a compris que Moshe Allah el ha-Elohim, ça vient dire qu'il y a un problème de préparation. C'est parce que Moshe Rabbeinu s'est préparé qu'Hachem a pu lui parler. Hachem ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas préparé. Oui. On voit ici que c'est comme ça, hein. C'est ce que Rabbi Akiva a dit. Je me suis préparé toute ma vie à ce Bechol Nafshecha. Et maintenant, quand ses élèves lui ont dit, mais fais quelque chose, Rabbi Akiva, il avait les moyens d'échapper à ce que les Romains lui étaient en train de lui faire. Mais il a dit, mais je me suis préparé toute ma vie à ce Bechol Nafshecha. Et maintenant, vous me demandez de pas le faire. Je me suis préparé. Non,
Dans le cas de Moshe, ça veut dire quoi? Parce que là, dans Rachid, dit c'est levé de bonheur.
ce, élevé?
C'est levé de bonheur.
Oui, c'est juste. Mais ça, c'est Rachid dit, parce que Rachid dit que chaque fois que c'est toujours Béhashkama, c'est toujours. On peut pas faire la grâce matinée comme préparation à la rencontre avec Hachem.
Alors, c'est quoi ta préparation de ce Moshe? Un contact avec Hachem, que ce soit par la pensée, la parole, le rêve, tout, il était quand même pas tout. Donc, se préparer. vous nous avez dit une fois qu'il était séparé de sa femme pour être dans cet état de. Sans en plus, dans cet état de fécondant, puisqu'il le fait appeler par Hachem n'importe quel moment. Alors, c'est cette préparation au final, je ne sais pas ce que ça veut dire.
C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a compris qu'on arrive à un moment ici décisif et qu'il y a une préparation spécifique à ce qui va se passer sur cette montagne. Il était prêt dans tout ce qu'Hachem lui a demandé quand il fallait guider les Bnei Israël pour les faire sortir de Mitzrayim, passer la mer, etc. Mais maintenant, il y a une préparation ad hoc, si vous voulez, qui est comment est-ce qu'on fait pour... Là, maintenant, Hachem, quelque part, Moshe Rabbeinu sait que il va y avoir quelque chose. Et donc, il se prépare dans la mesure du possible. Vaikra Elav Hachem, Minahar. Donc, Hachem lui parle à partir de cette fameuse montagne. Les morts. Kotomar le Bet Yaakov. Ve Tagid, l'Ivnei Israël. Tu parleras ainsi à Beth Yaakov. Beth Yaakov, ce sont les femmes. Ve Tagid, l'Ivnei Israël. Et tu raconteras au Bnei Israël, c'est-à-dire les hommes ici. Alors, vous voyez, on a ici ce dont on avait parlé, je crois, au shiur de dimanche. Ici, la Amira, la parole douce, a priori, c'est pour les femmes. Vetaged, on avait dit ça sur la Haggadah, vous vous souvenez? Dans la Haggadah, ici, dans le Tagid, on a le Gimel Dalet, même ici, il y a même le Yud, on a le Guide. Le Guide, c'est un tendon. Le tendon, ça se mange pratiquement pas. Enfin, ça se mange pas, c'est dur. Donc les paroles dures, c'est pour les hommes. Aux hommes, tu leur parleras des paroles dures, aux femmes, des paroles douces. La Torah, elle a donc deux langues, en fait. Il y a une langue qui s'appelle Amira, Amira Raka, ça veut dire douce, et un dibour caché. Aux femmes, il faut dire les choses doucement. Et aux hommes, il faut leur parler de Onshin et de Dikdukim. Il faut leur parler sanctions. Et Dikdukim, ça veut dire leur dire qu'ils doivent faire très très attention, prêter attention à tous les détails. Mon maître, le Rav Volbe, il disait que si on avait su, si on savait comment parler, on pourrait convertir le monde entier. On arrivait à expliquer aux gens la beauté, la profondeur de la Torah, tout le monde qui l'entend, qui entendrait ça, Prétchouva. Je sais pas. Si on peut ajouter, Claudine pense comme ça. Je sais pas. Je sais pas.
Et parce qu'on dit que ma chère va amener la paix, tout le monde va venir vers la Torah.
On verra. Ouais. Caniré, donc, que l'être humain, il doit apprendre à parler les deux langues en question. Ces deux langues. Il y a des situations dans lesquelles on doit parler Amira et d'autres où on doit parler Dibour. On a l'impression que si on veut essayer de rapprocher les gens, il faut leur parler doucement. Mais si on veut parler de la vérité de la Torah, on est obligé de parler de dinim. On est obligé de parler de choses qui éventuellement sont dures. Il ramène que un des maîtres de l'école de Kelm, c'était une des écoles de Moussard. C'est Rav Daniel, là, de Kelm. Il disait, il s'étonnait, il existe un sefer qui s'appelle, un tout petit sefer, qui s'appelle Orchot Chaim La Roche. Le Roche, Rabbeinu Asher, c'est un grand décisionnaire du Moyen Âge. C'est quelqu'un qui était en pays ashkénaze et qui, au moment des croisades, s'est enfui en Espagne. Il est le père, bon, il est le père du Tour Shulchan Aruch. Le Tour, c'est l'ouvrage de base qui a été commenté par le Beit Yosef et le Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, à partir de son commentaire sur le Tour, de son commentaire sur le Rambam, il a écrit le Shulchan Aruch. Alors le Rosh, il a écrit un petit sefer pour son fils, avec des maximes, son fils. Alors, à un endroit. Pardon? Est-ce qu'on est plus le dimanche? Oui. Dans le Roche, il écrit à son fils, Vedibar Tabam al Shulchanecha. Tu parleras des divrei Torah à table. Alors le Rav Daniel en question, il pose la question, il dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte de nouveau là, le Roche? C'est écrit dans le Kriyat Shema, Vedibar Tabam. On a l'obligation de parler de Torah en permanence. Pourquoi il dit à Shulchanecha? Alors il a répondu à la question qu'il avait posée, il a répondu lui-même que le Roche, Rabbeinu Asher ici, il enseigne que il faut que quelqu'un, il a dit à son fils, tu dois apprendre une langue particulière, une langue spécifique, pour pouvoir parler de paroles, de parler de Torah à table. Ça veut dire à table, tu vas pas pouvoir parler de Torah comme tu en parles quand tu es en train d'étudier au Beit HaMidrash. Et pourtant, il faut bien parler de Torah. Donc il faut que tu apprennes la langue adéquate qui permet de parler de Torah à table. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les paroles de Torah qu'il faut dire à table, ben c'est en yiddish, on dit c'est des vortes, c'est un mot, un bon mot, quoi, quelque part, une petite histoire, un petit machin. C'est juste de quoi permettre à son épouse de s'endormir. Les enfants, ils comprennent même pas ce qu'il veut. Ça, c'est pas Bedibarta Bam al Shulchanecha. Ça n'a rien à voir, disait Rav avec ça. Il faut trouver quelque chose qui soit audible pour les gens qui sont à table. Que ça, quelque chose qu'ils aient envie d'entendre. Et pour ça, il faut une langue particulière. C'est ce que son père lui dit, tu dois apprendre à parler à table, de livrer des paroles de Torah. Donc ça veut dire, il y a une langue adéquate pour toute situation. Là, on dit qu'il y a une langue pour femme et une langue pour homme. Mais ça n'épuise pas le sujet. Alors, mon cher Abbé nous va leur parler. Il va leur dire ce qu'Hachem lui dit de dire. Hachem lui dit de dire, Atem riitem, Asher vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai transporté sur les ailes des aigles. Va vi etrem, et je vous ai amené là. Vous avez amené à moi. Ce que ça veut dire, je vous ai amené Elai, à moi. Le Sforno, il dit, El Ha'ar Ha'Elohim, c'est-à-dire, Amouchan l'Inevoa, vous est amené à cet endroit-là, qui est un endroit qui est prêt pour la prophétie. Les Bnei Israël vont au Sinaï, les Bnei Israël vont accéder à la prophétie. N'est-ce pas? Hachem va leur parler, et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je vais leur parler comme je te parle à toi. Pour qu'ils sachent par la suite que quand tu diras que je t'ai parlé, ils peuvent te faire confiance, ils l'ont expérimenté, c'est possible. Et bien Israël veut entendre Hachem directement pendant les deux premières paroles. Après, ils ont eu peur alors. Mais pendant les deux premières paroles, ils ont entendu Hachem. C'est-à-dire, cet endroit-là, c'est un endroit qui est prêt à la prophétie. C'est ça, Elaï. Rashi, il a dit un peu autrement. Rashi, il a dit, Elaï qui targumo. Elaï, comme c'est traduit. Alors, c'est traduit, ça veut dire, Onkelis, il dit, je vous ai amené à mon service. Vous allez me servir. Vous allez faire la fameuse avoda. Vous ai amené, Elai, c'est ça. Amené, je vous ai rapproché de moi, c'est-à-dire je vous prends à mon service. Je vais vous donner des instructions pour me servir. Et maintenant, im shamoa tishmeu bekoli. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, shmartem et briti, si vous gardez mon alliance, vitem li segula mikol haamim, et que vous soyez pour moi un trésor parmi les autres peuples, Parce qu'en fait, le monde entier m'appartient. Vatem tiyuli, et vous serez pour moi mamlechet kohanim vegoy kadosh. Une mamlechet, un royaume de kohanim. Ici, kohanim, ce n'est pas des prêtres, c'est des gens importants. Vegoy kadosh est un peuple saint. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Ele advarim asher tedaber el bnei Israël. Voilà ce que, voilà les paroles que je veux que tu dises au bnei Israël. C'est-à-dire, vous allez avoir un statut à part, à condition que vous m'écoutiez, vous gardiez l'alliance. Alors, vous allez devenir un royaume de gens, de princes quasiment, et un peuple saint. Rashi dit sur Ele Advarim, voici les choses que tu parleras, que tu diras au Bnei Israël. Rashi dit, Lo pachot ve lo yoter. Quelque part, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire exactement ce que je viens de dire, et pas plus, ni moins. Ça veut dire, j'aime penser que Moshe Rabbeinu l'allait broder sur ce qu'il a dit. Pourquoi il faut lui dire, tu ne peux pas dire plus, ni moins. Pourquoi Moshe Rabbeinu dirait-il plus ou moins? Il semble ici que Hachem veuille dire, ça n'a pas besoin d'autres explications. Il faut qu'ils entendent ces mots-là. Par la suite, Moshe Rabbeinu va parler au Bnei Israël, puis ensuite il va leur expliquer toutes sortes de choses. Mais là, à la limite, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, pas d'explication. Faut que ces mots-là résonnent en eux, ces mots-là. Bon, les mots sont pesés, en quelque sorte. Et je ne veux pas que tu en dises plus. Alors, Moshe Rabbeinu parle, il va parler au Bnei Israël, mais il leur parle, il parle pas, il réunit pas tout le peuple pour lui parler. Vayavor Moshe, Vayikra les Ikneam. Donc, Vayavor Moshe, d'où est-ce qu'il vient? Vient de. Hachem lui a. Il est monté à la Elohim, il est allé à la. Il est allé à la. Il est monté sur la montagne. Attends, ou si vous préférez, il s'est isolé, il s'est préparé pour la prophétie. Et ensuite, il retourne dans le camp des Bnei Israël, là où les Bnei Israël campent. Il appelle Zikneam. Et il pose devant eux et kol advarim ha'ele asher tzivahu Hashem. D'accord? C'est marqué Vayasem lifnehem. Comme Hashem lui a dit, tu diras exactement ça. Il a posé les paroles que Hashem avait dites devant les anciens d'Israël. C'est curieux. À mon avis, il a posé les choses devant les Ziknei Bnei Israël. Vayanu kol ha'am yachdav vayomru kol asher diber Hashem naaseh. Et tout le peuple a répondu, on va faire tout ce qu'Hachem a dit. Mais qui leur a dit? Le texte a l'air de dire que ça a été posé devant les Skénim seulement, devant les anciens. Alors comment le peuple tout entier a pu répondre en quelque sorte? Il faut dire que les anciens leur ont dit les choses. Et c'est les anciens qui leur ont dit les choses. Donc le peuple, du coup, a répondu, tout le peuple ensemble. C'est toujours ce peuple-là qui est arrivé et qui est que Ish Echad B'Lev Echad, ils répondent tous ensemble. Une seule voix, en quelque sorte. Ensemble. Et ils disent, Kol Asher Diber Hashem Naaseh. Tout ce qu'Hashem a dit, on le fera. Vous pouvez me dire ce qu'Hachem a dit qu'ils vont faire. Il leur a rien dit, Hachem. Dit, si vous écoutez ma voix et respectez l'alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Que la chair libère. Il n'a encore rien dit. Hein? Quoi?
C'est la communauté la plus brutale qui prépare à lancer des mouvements. Ils ont entendu un peu, en gros, ils ont entendu des détails, ils ont fait ce qu'ils ont.
C'est-à-dire, comme Hachem leur a dit très précisément, si vous écoutez ma voix et vous faites ce que je dis, donc écoutez ma voix, c'est ça. Et si vous gardez l'alliance, alors voilà, vous serez Mamlechet Kohanim, etc. Donc ils ont dit, voilà tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'il fallait garder ça, on va écouter tout. Tout ce qu'il a dit, tout ce qui est contenu dans les paroles qu'il a dites, ça veut dire, c'est une façon de dire en un mot. Tout ce que je vais vous dire par la suite, si vous le respectez tout ça, vous écoutez ce que je vous ai dit, ce sera très bien pour vous. Ils ont dit, voilà, pour la chair d'Hiber, on a compris. Hachem a tout dit d'une certaine manière dans ce raccourci. Normalement, si vous faites un chèque en blanc à quelqu'un, il a dit que vous n'êtes pas engagé. On ne peut pas s'engager chèque en blanc. C'est tout un problème, comment les Bnei Israël se sont engagés. Alors, la vérité, c'est qu'il y a un seul moyen de s'engager à des choses qu'on ne connaît pas, de devenir esclave. Celui qui devient esclave, il s'engage à tout ce que le maître va lui demander de faire. Donc en vérité, ce que les bénis Israël acceptent ici, c'est qu'ils acceptent la avdout d'Hachem. Ils acceptent bon, c'est un sujet un peu en soi, mais c'est toujours le fameux Ki li bnei Israël avadim. Les bnei Israël sont mes esclaves, dit Hachem. On en a parlé, on a dit. Les bnei Israël étaient esclaves de Paro. Mon cher Rabbeinu, nom d'Hachem, donc. Mon cher Rabbeinu, en quelque sorte, il a acheté les esclaves de Paro, ou plus exactement, il a obligé Paro à libérer les esclaves. Et là, il faut entendre ce que nous disons souvent. Nous disons souvent que Hachem, Pada, il nous a rachetés. Un pidyon. Dans un pidyon, on rachète, ça veut dire tu payes et tu achètes. Pidyon, c'est on te paye la rançon quelque part et tu rachètes l'esclave. Alors, d'un côté, on dit que Hachem pada otanu. Normalement, pada, c'est a priori payé pour libérer l'esclave. Mais en même temps, Hachem dit avadaihem. Ça veut dire, ils sont mes esclaves parce que c'est moi qui les ai sortis d'Égypte. Alors, il y a les deux choses qui sont a priori contradictoires. Parce que si c'est pas da, alors on est libre. Et si on est l'esclave d'Hachem, alors ou l'opada otan, ou kina, ou kana otan. Il nous a achetés, il ne nous a pas libérés. Quand on fait le pidyon aben d'un enfant, d'une certaine manière, on rachète l'enfant au Cohen. Mais on le rachète. On veut pas, par là, il ne devient pas ma propriété. Je le rachète au sens, il devient libre avec ça. Il était le Shoubad, a priori, au Cohen, puisque normalement, puisqu'il est un premier-né, etc., donc il faut le racheter du Cohen. A priori, le pidyon, c'est le libérer. À moins qu'on dise que pidyon, ça ne veut pas dire racheter, au sens de libérer, adaotanu, ça veut dire racheter pour soi. Pourquoi pidyon? On a dit racheter alors. Simplement.
Vous avez bien aussi
Alors?
nous avoir comme esclaves, il faut qu'on soit libéré de Paro.
Non, mais non, il peut nous acheter. Oui, mais c'est acheter. On a simplement l'esclave en question, il a changé de maître, c'est tout.
Nous
Pardon?
aussi.
Ça, c'est si vous dites avadaihem. Oui. Maintenant, si vous dites que le pidyon, c'est libérer la personne, la racheter à celui qui est le propriétaire, mais pour la libérer. Alors, c'est plus tout à fait la même chose. En tout cas, la leçon, c'est qu'on est avadim d'Hachem, et a priori, être eved d'Hachem, c'est le moyen d'être libéré de toute autre avdout. C'est ça l'important. Et comme d'être eved d'Hachem, c'est le chérout, c'est la liberté, c'est ça qu'on appelle la liberté. Donc c'est pour ça que la question qu'on a, elle se résout de cette manière-là. On accède à la liberté en étant esclave d'Hachem. Parce que ça nous libère de tout autre esclavage. C'est le seul moyen d'être, de ne pas, ça veut, d'une certaine manière, on est éternellement libre. Parce qu'on appartient éternellement à Hachem.
Donc là, il choisit son bourrage de crâne.
C'est ça.
C'est ça. Et
Le Rambam, il dit qu'il n'y a pas de mauvaise pensée dans un cœur qui est rempli de chokhmah. Il n'y a pas la place, parfois. Donc, cette histoire de bourrage de crâne, ça veut dire qu'il faut empêcher la nature et la horreur du vide. Donc, de toute manière, ça va se remplir. Si je ne choisis pas avec quoi je le remplis, ça se remplira de bêtises et de choses interdites ou. Pardon, c'est de la mécanique. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut remplir à notre manière pour être sûr que ça ne se remplisse pas autrement. Donc c'est ça que les Bnei Israël ont accepté. Ils ont accepté, voilà, on va se remplir comme tu veux. On est tes esclaves. Il y a quelque part, ça demande, c'est une forme d'humilité d'accepter de devenir esclave, mais c'est le prix à payer pour ne pas être vraiment esclave, même pas de ses passions ou de quoi que ce soit d'autre. Voilà. Pardon? Ah oui. Alors attends, je sais pas, je vois pas. Annie, vous êtes là? Où elle est? Ah, elle est là. Annie,
Oui, j'y
vous
vais, j'y
pouvez
vais
dire
tout.
les Teilim?
Oui.
Alors allez-y.
Yoshev Beseder Elyon Betzel Shaddai Islonan. Omar l'Adonai Marsi Umesudati Ula Yeptarbo. Kiyu Atzilecha Mipar Yakush Medevaravos. Devrasu Yaser Lach Vetachat Knafav Tirtze. Tzina Vesochecha Mito. Lo Tzicha Mipachal Laila Michesia Ufiyomam. Midever Baofel Yalok Meketev Yashut Tzorayim. יפול מצידך אלף ורבבה ממנך אליך לא ייגש. רק בעיניך סביתו שלוות הפשרמים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך, לא שאונה אליך רע ונגע לא יכחב בעליך, כי מלאכיו יסבילה ישמורך בכל דורריך, על כפיים שמונך פן תיגוב באבן רגליך, על שחל ובפתן תדרוך תרמוס כפיר וזנים, כי בי חשב ופלתהו אסביהו כי ידע שמי, יקחה עיני ועיניהו, הנה אנוכי בצרה רחצהו וכבדהו. אורך ימים, אז ביהו, בהרי ובשבשי.